in the sky. Look!
It's a bird!
It's a plane! It's Superman!
Comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
Vite, Robin, la manette à gauche!
Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes.
Bruce?
Bonjour à toutes et à tous, et soyez bien entendu les bienvenus dans ce 38e numéro de Comics Bazar. Comics Bazar, c'est habituellement 25 minutes de comics de pop culture, et ça tombe bien, cette semaine, je vais vous parler de manga, car oui, samedi dernier, samedi 14 novembre, je me suis rendu à l'espace culturel de l'université Lille 1 pour me rendre au salon Lille Otaku. Et c'est d'ailleurs ce que je vous laisse écouter à travers l'interview de Élise Wattier, la présidente de l'association Lille Otaku, qui va vous présenter ce salon. Samedi 14 novembre, je me trouve au salon Lille Otaku. Je vais faire pour vous l'interview de Élise Wattier, la présidente qui a organisé ce salon. Bonjour Élise.
Bonjour.
Peux-tu nous présenter ce salon qui est Lille Otaku ?
Alors en fait, Lille Otaku, c'est un salon dédié à la culture japonaise. Donc on s'adresse autant à des personnes qui sont fans de la culture japonaise qu'à des personnes qui connaissent rien de la culture japonaise. Sur ce salon, on a par exemple un maître café. Donc en fait, c'est des serveuses habillée en serveuse japonaise, en fait, typique, un peu soubrette, mais au Japon, il y en a pas mal. Et elles vous servent de la nourriture japonaise créée par un food truck japonais, justement, du Nord, qui s'appelle Peko Peko. Après, on a un stand jeux vidéo par l'association Salty Arena. Après, on a aussi des Lolitas qui viennent présenter leur culture. Elles ont vraiment un style de vie et une façon d'être particulière. Et elles proposent aussi des relookings au niveau des personnes qui s'y connaissent pas dans cette culture et qui veulent essayer de s'habiller comme des Lolitas. Ensuite, on a aussi Manga Docas qui propose un stand lecture. On a un stand origami tenu par des bénévoles, un stand jeu de go, calligraphie, tenu par des bénévoles également. Et ensuite, on a la Taverne Oubliée qui tient le stand jeu de plateau. Et après, on a aussi une activité non artistique qui est plutôt sportive avec les jeux de sumo, où les personnes peuvent jouer librement aux jeux de sumo.
Alors pour revenir sur l'organisation, c'est organisé par des étudiants en marketing et en communication, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. En fait, l'année dernière, pour la première édition de Lille Otaku, c'était un projet étudiant. Donc il y avait 4 personnes qui étaient passionnées par la culture japonaise, qui voulaient monter un truc sur le Japon, et 3 autres personnes qui se sont ajoutées parce que c'était plutôt le côté événementiel qui nous intéressait. L'événement, il a été vraiment beaucoup plus que ce qu'on pensait. On a eu 500 personnes qui sont venues, on en attendait 300. À partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas créer une asso et continuer des prochaines éditions. Du coup, on s'est dit on est 5 sur les 7 à vouloir continuer. Et comme là, on n'est pas forcément tous passionnés, là sur les 5, il y en a 4 qui adorent cette culture-là. Et après, il y a moi qui suis un peu moins fan de cette culture, on va dire, mais ils ont vraiment voulu aussi que je sois présidente parce que j'arrivais à fédérer le groupe et à gérer tous les côtés inattendus de l'événement. Et je pense que c'est ça qui nous aide aussi, à avoir une personne qui est aussi pas dans ce milieu-là pour pouvoir dire non, ça, c'est pas faisable.
Une personne qui sera plus terre-à-terre et moins concernée, j'ai envie de dire, par cette culture, mais tout de même très intéressée, histoire de vraiment pouvoir gérer tout ce qui va être administratif, c'est bien cela.
Oui, c'est ça, et comme ça, ça permet aussi... Parce que parfois, ils s'emballent un peu en disant « ce serait bien de faire ça comme à Japan Expo », des choses comme ça. Mais je leur rappelle bien qu'on est un salon dédié à la culture japonaise et que vraiment, on va être ouvert aux passionnés comme aux personnes qui n'y connaissent rien à cette culture pour vraiment faire découvrir à tout le monde. Donc c'est pour ça que avoir une personne qui n'est pas du tout fan de cette culture, ça permet de s'ouvrir aussi à tout le monde et être accessible à tous.
Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu 500 personnes qui étaient venues à la première édition pour 300 personnes attendues. Cette année, vous attendiez combien de personnes ?
Alors cette année, on attendait 800 personnes maximum dans la journée, sachant que ce matin à midi, on était déjà passé à 500. Donc on pense qu'on va atteindre les 1000 personnes d'ici ce soir.
Bah c'est pas mal.
Oui, c'est sûr, ça fait plaisir.
Vous avez donné tout à l'heure les activités. J'aimerais revenir sur le concept de maître café. Donc si j'ai bien compris, ce sont des serveuses
qui vous apporte votre plat, votre boisson, mais de connaissance, elles restent avec vous et font la discussion.
Alors normalement, oui, dans le principe du maître café, c'est comme ça. Normalement, un maître café, elle reste avec nous. Sauf que là, étant donné qu'on n'a que 3 maîtres café, elles discutent un peu avec les personnes, mais elles sont vraiment surtout là pour servir les personnes, en fait. Donc c'est plus des serveuses qu'autre chose.
Et pouvez-vous nous reparler justement de l'association qui gère le Rule King Lolita ?
Alors c'est l'association Rouge Dentelle et Rose Ruban Nord. La branche du Nord a été créée l'année dernière. Et en fait déjà l'année dernière elles étaient venues, elles présentaient leur culture. Et là cette année elles proposent en plus le relooking. Donc les Lolitas c'est un peu, si on devait les comparer, ce serait un peu des personnes qui s'habillent un peu comme des poupées. Des poupées comme on peut trouver avant avec des belles robes et tout ça. Elles sont vraiment maquillées assez fort au niveau du visage.
Alors vous disiez que le public, la cible je vais dire plutôt de votre salon, c'est vraiment aussi bien les débutants que des personnes confirmées. Mais au final, le public, qui est-il vraiment ?
Alors, de ce que je peux voir quand je tourne au niveau du salon, je pense que le public, il est surtout fait de passionnés de culture japonaise. Je vois quelques personnes qui me posent des questions sur le salon, donc je pense que c'est pareil. Ils s'y connaissent pas dans cette culture, mais je pense vraiment que la majorité, c'est des personnes qui sont fans de cette culture.
Alors, y a-t-il des invités, des activités, comme par exemple des concerts ? J'ai pu voir ça sur votre programme, il y a des concerts et il y a aussi quelques invités de renom.
Oui, alors on a 3 youtubeurs, dont Lucas TV, qui sont présents le jour du salon. Et en fait, ils signent des autographes, ils discutent avec des fans. Après, toute la journée, on a des animations aussi. Par exemple, ce matin, on avait le DDR, Danse Danse Révolution, où on pouvait danser sur des musiques. Après, on a eu le concert de Lita Kira, une artiste du Nord. Ensuite, cet après-midi, on a le défilé Lolita. Et on a aussi le défilé de cosplay. Et on a aussi une petite représentation des danseurs japonais qui nous font une petite démonstration, c'est leur première représentation. Et ce soir, donc, on a Nikolai Orchestra qui vient nous faire l'honneur de sa présence, entre guillemets, et qui vient faire un concert à 18h.
Tout à l'heure, vous parliez justement de la Japan Expo, etc. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir comme ça sur Paris des salons dédiés à la culture japonaise, donc la Japan Expo, Paris Manga, etc. J'en passe. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel comme ça de voir un salon dédié à la culture japonaise dans le Nord-Pas-de-Calais, plus exactement là ça se tient à l'espace culturel et à la MDE de l'université Lille-1. C'est assez rare de voir ça. On a tout de même des salons dédiés à la culture geek, je pense notamment à la convention inoubliable qui a eu lieu il y a quelques semaines sur les universités de Lille. Il y a aussi le Lille Comics Festival qui a eu lieu les années précédentes. Mais c'est vrai qu'un salon dédié à la culture japonaise, c'est assez surprenant.
Oui, sachant que nous, on se différencie aussi de tout ce qui est Japan Expo, MIA à Bruxelles, par exemple. On n'a pas d'exposants qui viennent vendre leurs produits. On veut vraiment rester accessible à tout le monde et pouvoir échanger avec les personnes et faire découvrir la culture. Pour nous, on pense qu'avoir des exposants qui font que vendre leurs produits, ça sert, c'est pas ça, faire découvrir la culture japonaise. Donc c'est vraiment un autre style qu'une convention. Mais après, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres petits salons de culture japonaise qui sont organisés. Je sais que du côté de Maubeuge, il y en avait eu un moment, pas loin de Dunkerque, dédié à la culture japonaise aussi. C'est juste que je pense qu'on n'est pas assez connu, contrairement à toutes ces grosses conventions qu'il peut y avoir dans d'autres villes. Et pouvoir rendre accessible une convention à des personnes, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui habitent à Lille et qui vont jusqu'à Paris pour aller à la Japan Expo, donc on se dit que c'est aussi tout bénef pour eux de pouvoir venir là.
Ça reste un salon vraiment à taille humaine pour faire découvrir cette culture.
Oui, oui, c'est ce qu'on veut vraiment garder, on veut garder cet esprit taille humaine pour vraiment garder cette convivialité, parce que nous on est déjà allé à la MIA, à la Japan Expo, où on trouve que c'est un peu trop devenu une grosse machine, et nous on veut essayer de garder ce côté convivial et proche des gens.
Et je rappelle que vous êtes des étudiants en marketing et en communication, et c'est assez intéressant d'avoir ce propos-là de la part d'étudiants dans ces branches d'activité. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes plus terre-à-terre étant la présidente, mais tout de même, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de monter un salon dédié à la culture japonaise ?
Alors déjà, moi, c'était l'événementiel qui me plaisait. Je voulais vraiment créer un événement. Je me suis dit qu'il faut l'avouer, sur mon CV, ça faisait un sacré plus quand on se présente pour un job. Après, ce qui m'a attiré aussi, les autres personnes du groupe aimaient cette culture et il m'avait déjà fait un peu découvrir cette culture et du coup j'avais envie d'en savoir plus et j'ai découvert vraiment des personnes qui sont très ouvertes même quand on s'y connaît, quand on ne s'y connaît pas. Ils nous expliquent bien comment ça marche, ils nous expliquent bien leur concept et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'impression de faire partie de leur monde alors que pourtant on n'y connaît rien et c'est vraiment ça qui me donne envie de rester et envie de continuer jusqu'au bout.
Alors est-ce que vous avez des partenaires sur ce salon? Vous le disiez tout à l'heure, il y a pas mal d'associations. Est-ce que vous avez des partenaires particuliers à citer?
Alors déjà, il faut remercier l'université de Lille 1 parce qu'ils nous financent une bonne partie du salon parce qu'on vit surtout de subventions étant donné que tout est gratuit sur le salon à part la nourriture. Après, on a le Crous aussi de Lille 1 qui nous a aidés dans le cadre du programme Culture Action. Et après, oui, on a, sans les partenaires et sans les bénévoles, on a une trentaine de bénévoles aujourd'hui qui nous aident. Et on a aussi du coup Manga d'Ocase, La Taverne Oubliée, Salty Arena, Les Lolitas, un photographe aussi. Ils sont vraiment tous venus gratuitement et c'est ça qui nous permet de vivre parce que c'est ça le principe. On vit vraiment de subventions et du coup, sans eux, on pourrait vraiment rien faire.
Eh ben, merci beaucoup, Élise Wattier. Je rappelle que vous êtes la présidente du Salon Lille Otaku. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques contacts à nous donner pour retrouver l'actualité pour la prochaine édition qui sera probablement la troisième? Assurément la troisième. Est-ce que vous avez quelques contacts à nous donner à ce sujet, les réseaux sociaux, le site, etc.?
Alors déjà, on a créé un site internet www.lilotaku.com où vous pouvez retrouver toutes les infos sur les prochaines éditions, également les photos que vous avez pu faire le jour J. Après, on a aussi la page Facebook Lilotaku où c'est là où on met le plus d'infos, où les infos sont le plus à jour. Donc on fonctionne surtout au niveau de la page Facebook et notre site internet. Et après, sur notre site internet, il y a notre adresse mail où il ne faut pas hésiter à nous joindre s'il y a la moindre question.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Une dernière chose à dire à nos auditeurs, peut-être, sur votre salon?
Ben, du coup, on espère vous voir nombreux à la prochaine édition et on vous remercie encore de nous soutenir.
Eh bien, merci beaucoup, Élise Wattier, donc présidente de l'association qui est en charge du salon Lille Otaku sur l'université Lille 1. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, et merci beaucoup donc aux membres du salon Lille Otaku. Place maintenant à la musique, une musique qui va vous redonner le sourire. Surtout en cette période, c'est le groupe Broken Back qui vous interprète Happiest Man on Earth.
I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never told you many things that I should. There were words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I'll never tell you anything that I should. There were words are on my lips, time to tell you the truth. I've been on the road now, coming home to my old town. This pretty smile, this pretty face, thinking I'm the happiest man. I've been on the road. Come to my old town, this pretty smile, this pretty face, think I am the happiest man on earth. Think I am the happiest man on earth. Will you leave me empty? The pain in your eyes, the chains in your heart, gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around whenever you hit the ground. I've been on the roads now, coming home to my old town. This pretty smile, this pretty face, think I am the happiest man. I've been on the roads now, coming home to my old town. Gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around whenever you hit the ground. I've been on the road now, coming home to my old town. This pretty smile, this pretty face, think I am the happiest man. I've been on the road now, coming home to my old town. This pretty smile, this pretty face, think I am the happiest man.
Happiest Man on Earth par Broken Back, voilà une chanson qui, je l'espère, vous redonne le sourire. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Lucas de la chaîne YouTube Lucas TV, qui lui va vous présenter ce qu'est la culture otaku et bien entendu ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. C'est un petit YouTuber comme ça que je voulais découvrir. Non, bien entendu, c'est un YouTuber de renommée. Et en plus, il est Lillois. Et j'ai eu le plaisir de l'interviewer au salon Lillotaku. Au salon Lillotaku qui s'est déroulé le 14 novembre dernier à l'espace culturel de Lille, de l'Université Lille, on fait aussi des bonnes rencontres, notamment Lucas TV. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as 22 ans, tu es Lillois et tu es YouTuber. Alors, tu es un adepte de la culture otaku. Est-ce que tu pourrais nous la présenter et te présenter ?
Alors, présenter la culture otaku, ça risque d'être difficile parce que c'est vraiment un terme super large. Mais moi, si je devais me présenter, donc voilà, je suis YouTuber passionné de tout ce qui est culture japanime, manga, animation, tout ce qui est goodies, culture japonaise en général. Et voilà, je partage ma passion avec d'autres passionnés, on va dire, sur YouTube.
Alors, d'où est venue cette idée de créer une chaîne YouTube ?
Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Donc à la base, il n'y avait pas vraiment de gens connus sur YouTube. Enfin, c'était pas un business comme c'est maintenant. Et j'avais juste des amis qui venaient chez moi pour faire un tournoi de jeu Naruto. Et ils ne savaient pas jouer, donc j'avais fait un petit tuto que j'ai mis sur YouTube pour qu'ils puissent regarder. Et après, j'ai vu que d'autres personnes qui n'étaient pas mes amis ont commenté et m'ont demandé de continuer de faire des vidéos. Et donc au fur et à mesure, bah voilà, j'ai continué et je me suis un peu diversifié.
Alors justement, tu as différentes activités sur ta chaîne. Quelles sont-elles ?
Alors je fais un journal d'actu hebdomadaire sur toutes les actus importantes, comme j'ai dit, manga, animé, jeux vidéo, même un petit peu what the fuck de ce qui se fait au Japon.
Et qui s'appelle l'Otaktu de...
Magnifique jeu de mots. Ensuite, j'ai une émission où je mange des bonbons japonais directement qui viennent du Japon, donc des fois il y a des trucs un petit peu chelous, mais c'est toujours marrant à regarder. Jeux vidéo, mais j'en fais un petit peu moins sur ma chaîne, je fais plus maintenant en live les jeux vidéo. Conseil manga, donc je donne mes avis sur les mangas que j'ai pu lire, soit récents ou anciens. Après, qu'est-ce que je fais d'autre ? Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, même moi des fois je commence à oublier. Des tops, je fais des tops personnages, par exemple Naruto, top film, Dragon Ball. Et des fois, quelques petites vidéos comme ça, qui ne sont pas vraiment des émissions, mais quand il y a une actu assez importante et que j'estime qu'il faut en parler, je prends une petite vidéo de 5-6 minutes, comme ça, de temps en temps.
Donc une chaîne vraiment très diversifiée, et ça peut justement retomber sur la prochaine question. Est-ce qu'on peut encore dire que la culture manga otaku, ça fait encore partie d'une certaine niche au niveau culturel ?
Alors, je pense que bon, ça devient de plus en plus connu et de plus en plus de gens commencent à s'intéresser à cette culture, je dirais, otaku, entre guillemets. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même assez de niche par rapport à la pop culture, en tout cas. Mais bon, on voit sur les précédents salons, il y a de plus en plus de salons qui commencent à se former partout en France, de plus en plus de monde. Donc je pense que c'est vraiment un marché qui explose en ce moment. Enfin, si on doit parler de marché, de culture. Plutôt.
Alors justement, tu parlais de salon qui se développe. Tu es présent aujourd'hui au salon Lillotaku. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce salon ?
Bah c'est franchement un salon super agréable, à taille humaine, comme on en parlait tout à l'heure en off. Les gens sont super cool, sont super sympas. Ça permet de beaucoup échanger avec les gens. Même j'ai pu voir d'autres amis vidéastes qui sont aussi ici. C'est un bon lieu de rencontre et en plus, comme tout est gratuit... C'est vraiment le meilleur moment pour les gens qui ont envie de commencer à s'intéresser à cette culture ou qui ne connaissent pas forcément de venir voir un peu ce que donne une convention.
Alors toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à cette culture ?
Quand j'étais enfant, en fait, j'ai mon oncle qui était de la génération Club Dorothée, donc qui était Dragon Ball, Saint Seiya, etc. J'ai commencé assez tard. Moi, je regardais Dragon Ball comme tous les enfants, quand ça passait à la télé, Saint Seiya. Mais vraiment à commencer à lire de mon côté, regarder de mon côté, je devais avoir 14-15 ans. Et bah voilà, ça me permettait en fait de sortir de ma vie de collégien en fait, et d'avoir un petit, pas échappatoire je dirais, parce que j'ai pas eu une vie non plus compliquée, mais ça me permettait de voir plein de choses, des univers différents, et c'est ce qui me faisait kiffer en fait. Et justement, c'est ça qui est super dans tout ce qui est manga, animation, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Tous les genres, tout le monde peut vraiment s'y retrouver.
Alors on voit souvent des adeptes de la culture geek venir à ce genre de salon. Est-ce que toi-même tu trouves que les comics et les mangas sont totalement deux mondes différents ?
Ça va être difficile pour moi de répondre parce que je suis pas vraiment comics, je veux dire cette culture-là, je suis pas... Mais bon, il y a souvent des salons qui mixent un peu les deux. Et je pense pas que ce soit si différent, parce que j'ai des amis aussi qui sont dans cette culture otaku, entre guillemets, qui aussi sont fans de comics. Donc après, je pense que ça dépend des personnes. Certains veulent séparer les deux, et d'autres disent que c'est à peu près la même chose, mais bon.
Moi, j'ai découvert personnellement un manga qui s'appelle One Punch Man, peut-être que tu connais probablement. Et justement, je trouve qu'on a ce rapport un petit peu monde du comics, du super-héros, des grands vilains, etc. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qu'est One Punch Man ?
Alors One Punch Man, c'est tout simplement le truc qui buzz à fond en ce moment, là surtout depuis la sortie de l'animé. C'est un manga qui met à l'extrême tout ce qu'on connaît, enfin tous les codes que l'on connaît des autres mangas. Et l'histoire, c'est juste un mec voilà, qui n'avait pas de vie, qui s'est entraîné à fond pendant 3 ans et maintenant qui tue des aliens de 20 mètres de haut avec un seul coup de poing et il s'ennuie. Voilà, il n'a plus rien à faire. Et donc c'est franchement super drôle. Et je pense pour ceux justement qui ne connaissent pas forcément les mangas et les animés et qui ont un petit peu des a priori, c'est vraiment le truc à commencer pour qu'ils puissent commencer à baigner là-dedans.
Alors justement, tu entames la question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite débuter dans les mangas ?
Alors déjà, pas commencer par Naruto ou One Piece ou tous ces trucs-là, parce que c'est vrai que même si c'est ce qui est le plus populaire, faut être clair que pour une personne maintenant qui veut commencer, il y a des 500-600 épisodes, c'est juste ingérable. Je conseillerais soit de lire les mangas, si on a la possibilité, ou de commencer par des séries un petit peu plus courtes, 25-40 épisodes. Parce que si on commence à se mettre dans du One Piece et au bout de 300 épisodes, on lâche, c'est beaucoup de temps perdu alors qu'on aurait pu découvrir 10 ou 15 autres œuvres.
Après, c'est vrai qu'on a toujours les classiques comme oui. Dragon Ball Z, qui était au Club Dorothée, etc. Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac.
Moi, concernant ça, pour moi, c'est impossible à l'heure actuelle pour quelqu'un qui veut commencer de regarder Saint Seiya ou Dragon Ball parce que c'est daté. C'est culte pour ceux qui ont commencé, je dirais, à cette époque. Mais pour maintenant, j'ai essayé de re-regarder Saint Seiya et Dragon Ball, c'est trop lent, il se passe rien.
Et puis c'est à rallonge, c'est sur 500 épisodes.
Voilà. Mais ça reste super culte et Dragon Ball, c'est vraiment la Bible pour les otaku. Quoi.
Alors il y a un grand débat qui prend souvent place sur Internet, c'est qui est le meilleur, Superman ou Sangoku ?
Waouh ! Moi j'aurais tendance à dire Sangoku. Après, je connais pas toute l'étendue des capacités de Superman, mais je sais pas si on peut vraiment comparer parce que bon, Superman, c'est pas vraiment un alien, mais il est pas humain non plus. Goku vient de lui complètement un alien. C'est vrai que je pense que ce serait impossible de toute façon de comparer les deux.
Ce serait un combat sans fin.
J'ai pas envie de me faire des ennemis non plus.
Alors, tu as des contacts à nous donner, sur quelle plateforme on peut te retrouver ?
Alors, je suis partout. Instagram, donc LucasTV comme mon pseudo, Facebook aussi, Twitter, et après YouTube, l'essentiel de ce que je fais, c'est sûr. Après, par rapport aux différents réseaux sociaux, Facebook c'est vraiment plus professionnel où je traite de la chaîne, des concepts, etc., où j'échange vraiment avec les abonnés. Twitter c'est plus Lucas que LucasTV, et Instagram, bon, c'est quand j'ai envie de prendre des photos un peu, voilà.
Merci beaucoup Lucas, donc je rappelle que tu es un youtubeur, tu as 22 ans, tu es lillois et tu étais présent donc au salon Yotaku. Merci beaucoup et n'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur sa page YouTube, découvrir ses différentes activités, aussi bien sa dégustation de bonbons que ses tests de jeux vidéo, ses top et ses petites reviews en ce qui concerne toute la culture manga. Merci à toi, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur le salon ou sur ta chaîne ?
Merci à vous pour cette interview, je vais finir sur ça.
Bah, merci beaucoup, Lucas.
Merci, au revoir.
Tout juste le temps pour moi de vous remercier d'avoir écouté ce 38e numéro de Comics Bazar. Merci aussi à Lucas et Élise. Écoutez, commentez et partagez ce numéro sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et rendez-vous aussi sur Instagram. Et bien entendu, en attendant le prochain épisode, comixez-vous.
Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don. Une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man.
Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.